La démarche d'aller au cinéma est une démarche de soumission joyeuse, c'est d'aller voir des gens plus grands que soi sur un écran à côté des sons qu'on peut pas entendre chez soi. Il n'y a qu'en voyant les films, c'est des films qu'on finit par comprendre qui on est.
Très très souvent, le hasard met en place la force même de la scène.
Alors on revient toujours aux expressions formidables de Godard. La télévision, le cinéma crée de la mémoire, la télévision crée de l'oubli.
Vous avez envie d'aller au cinéma, mais vous avez la flemme de lire le programme, et ben on est là, comme tous les mois, avec Chloé et Chloé pour vous décortiquer tout ça.
Bonjour tout le monde, on se retrouve pour... c'est quoi le nom de l'émission déjà? Radio Pestel, je suis Eddy, comme toujours, et pour toujours j'imagine aussi. Et je suis avec Chloé et Chloé, comme tous les mois, pour parler du programme du Pestel. Comment ça va, Chloé et Chloé?
Eh ben moi j'ai un chat dans la gorge, mais sinon ça va.
Ah, ça s'entend pas, ça s'entend pas, t'inquiète.
C'est vrai, tu l'entends pas? Il y a un petit un peu rauque comme ça.
Bah attends, des fois c'est bien d'être un peu rauque. Voilà. Vous avez passé des bonnes fêtes?
Ouais, carrément. Bah là, je suis en plein déménagement, donc c'est un peu un moment charnière. Pas très agréable toujours, mais ça va se faire.
Ouais, mais pour un avenir plus radieux.
Sûrement.
Et une vue sur Justin.
Bah ouais.
Qui est incroyable.
Qui n'a pas de prix.
Attention, ne te doxe pas, ils vont retrouver ton adresse.
Oui, c'est ça.
Donc, bonne année tout le monde. Et sans vraiment plus de discussion. Si, tu avais un truc à dire sur l'année 2024 du Pestel. 2025, pardon.
Et au 31 décembre, on a fait les comptes. On retrouve en fait notre niveau de fréquentation de 2024, justement. Ouais. C'est-à-dire qu'on dépasse légèrement les 36 000 entrées, ce qui confirme que 2020... Attends, je me suis perdue dans les...
Non, c'était 2024, la sublime année
magistrale. Ah oui, c'est ça, ah là là. Ouais. Donc oui, on retrouve 2023, pardon, et ça montre bien que 2024 était une année exceptionnelle, parce que... on a eu des films locomotives qui ont extrêmement bien marché. Et donc, voilà.
Okay.
Et c'est un truc généralisé à toute la France. Hein. Ce n'est pas le Pestel, c'est qu'on a constaté que grâce à un petit truc en plus, L'Amour Ouf, Mon Comte de Monte Cristo, il y avait eu un engouement pour le cinéma et que cette année, il y a eu moins de grosses locomotives.
Mais l'année 2026 s'annonce très prometteuse.
Oui.
Ouais, on va avoir de super films qui vont venir et on a hâte de vous les faire découvrir.
Et bah ouais, moi j'ai hâte d'aller au cinéma encore, moi j'étais assez ravi aussi de 2025, en tant que spectateur et en tant que membre du Pestel plus ou moins.
Et on et voilà. Vous renvoie à notre émission précédente dans laquelle on faisait nos tops.
Exactement.
Nos tops.
Le programme du Pestel ce mois-ci est un petit peu spécial. Parce que c'est le mois aussi du Festival Écologie au quotidien, qui se passe tous les ans à Die, qui se déroule du 27 janvier au 1er février, alors que le programme va du 21 janvier au 17 février.
Du Pestel. Hein.
Oui, le programme du Pestel, bien sûr. Mmh. Et du coup, il y a des événements en lien entre les deux, notamment trois rendez-vous, dont une avant-première. Donc à séance unique qui se déroulera le 27 janvier à 20h.
Alors c'est séance unique l'avant-première, mais en fait on le reprogramme trois semaines après.
Okay.
Non, dans ce programme là il est un peu repris quoi.
Ok, donc il y a un rendez-vous pour l'avant-première de Soulèvement avec le monteur Gilles Volta, c'est ça?
Tout à fait.
Et deux autres films qui seront diffusés le jeudi 29 à 17h, enfin en tout cas pour le rendez-vous en question, c'est ce qui s'appelle Récits des eaux et des rives et Des poussières d'étoiles c'est le jeudi aussi. Donc c'est la même journée à 20h30, mais il y a aussi quelques séances plus tard dans la même semaine, le samedi et le dimanche 24 et 25. Voilà, donc ça c'est pour le côté un peu festival écologie au quotidien. Est-ce qu'on peut partir pour la première semaine et avec les films dont vous voulez nous parler?
Je rajouterai juste qu'il y a deux autres soirées spéciales qui vont être faites. Hein. Du coup, tu as parlé d'une chef-op, ça va être celle de L'Englouti. Il y a aussi quelqu'un qui va venir parler du Ciné-Club de Jean-Pierre, donc qui est Les Harmonies Waxmeister.
Waxmeister.
Donc ce sera un conférencier, quoi, un maître de conférence en cinéma qui viendra parler. Et note également un café mortel. Il y en a eu plusieurs fois au Pestel. Et là, voilà, c'est de retour. Si ça vous... si vous voulez découvrir ou si vous en avez déjà fait ou si vous voulez juste passer écouter, c'est jeudi 5 à 18h. C'est le Pestel Café qui porte ça. Et c'est donc, est-ce que quelqu'un veut expliquer le concept ?
Alors moi, je n'ai jamais participé.
Moi non
si
plus.
Tu veux expliquer,
Alors, c'est une discussion pour gérer une situation de deuil, j'imagine. Enfin, c'est pour avoir des témoignages et un échange autour de la question du deuil, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. En fait, les personnes qui ont des choses à déposer le font. Il y a des personnes qui font juste écouter.
Ouais.
Et c'est un peu animé, mais voilà. Et je recommande, du coup, si ça vous rend curieux, curieuse, vous pouvez vraiment juste passer et voir un peu à quoi ça ressemble.
Et donc c'est jeudi 5 à 18h. Et donc pour la semaine du 21 au 27 janvier, on a Le Temps des Moissons, qui est un drame chinois de Huo Meng. On a Dites-lui que je l'aime, de Romane Bohringer. Il me semble que Chloé nous en avait parlé le mois dernier.
Ouais, et je vais en reparler, mais avec plus de précision.
Très bien. L'Englouti, de Louise Aymon, dont Chloé va aussi nous parler. Qui n'est pas une comédie. Alors, c'est écrit comédie, mais c'est une coquille, c'est plutôt un drame, si j'ai bien compris. On a le ciné-club de Jean-Pierre qui est les harmonies, Workmaster. C'est un mot compliqué, mais je me suis foiré sur harmonie. Bon, bref.
trop de pression.
Donc de Bellatar, qui est sorti en 2003. Et donc la soirée dont on vous parlait de l'avant-première de Soulèvement de Thomas Lacoste pour Écologie au quotidien. Voilà. Chloé, parle-nous de L'Englouti.
Oui, L'Englouti, je l'ai vu au Festival d'Autran là, en décembre et je l'ai trouvé très réussi. C'est un film qui nous embarque dans un monde montagnard. On est en plein hiver, on suit cette institutrice qui débarque dans un hameau très reculé, où on parle d'ailleurs pas très bien français, dans les Hautes-Alpes. C'est où déjà, Chloé ?
Dans le Briançonnais, je crois que ça a été tourné à Névache.
Ah voilà,
Vallée de Névache.
Tu m'as dit, ouais. Et ben, en fait, le film commence au début de l'hiver, et à l'arrivée de l'institutrice, et termine à la fin de l'hiver, quand la neige commence à fondre. C'est vraiment un film qui nous transporte dans l'histoire, mais qui nous fait aussi beaucoup sentir cette ambiance où on est éclairé par le feu. Et c'est aussi, je pense que la lumière de ce film est très particulière. Et s'il y a une bonne raison de venir les voir, c'est le soir où la chef opératrice sera là pour nous raconter comment elle a travaillé là-dessus. Donc ça, ce sera le 23 janvier à
20h15,
tout à fait. Et on pourra vraiment parler avec elle du travail énorme qui a été fait, parce que c'est un film beaucoup éclairé en lumière naturelle. C'est vraiment hors du commun. Une autre raison de voir le film, c'est Galatea Bellucci, qui est ma nouvelle chouchoute. Enfin, objectivement, elle est incroyable. Elle illumine le film. Vous avez peut-être vu La Condition, dans le film dans lequel elle était vraiment époustouflante. Et là, on retrouve sa fraîcheur, sa naïveté aussi dans ce rôle. Et en même temps, il y a une part de fantastique que moi, j'ai vachement aimé. Enfin... Voilà.
C'est
et troisième raison, c'est un film historique, je le disais. Louise Aymon a travaillé à partir d'archives et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de se pencher sur cette fin de 19e siècle, pardon, l'entrée dans le 20e siècle. L'histoire se déroule en 1899 et on les voit fêter Nouvel An et rentrer en 1900. Donc c'est un moment historique où on est après les lois sur l'école laïque républicaine nanana. On voit ce que ça a été comme réalité. En fait, c'est des instituteurs qui sont envoyés aux quatre coins de la France pour prêcher la bonne parole aussi. Et bref, allez voir ce film, c'est très réussi. Et rendez-vous du coup le 23 pour cette intervention de la chef opératrice.
Ouais.
Tu m'as bien donné envie de le voir.
Ah, ouais. Il est super.
Je l'ai vu, moi j'ai été assez envoûtée aussi il y a Il y a quelque chose qui peut bien plaire au DIY. Il y a un truc autour de, comme tu disais, un peu de la tradition qui rencontre
la modernité,
un peu la modernité, la nation, la République, tout ce qu'on veut dire, mais qui est très bien mis en scène. Et puis il y a une douceur, il reste quelque chose de très doux et puis
un peu d'érotisme
et de l'érotisme. Ouais, tout ça mélangé, vous verrez, c'est assez fou. Donc moi, je vais vous parler d'un autre film de la semaine, cette première semaine, c'est Dites-lui que je l'aime de Romane Bohringer. Romane Bohringer, actrice et maintenant réalisatrice, c'est son deuxième film.
On ne la présente plus.
On ne la présente plus, évidemment. Alors en fait, ce film, c'est un peu un mélange, enfin c'est l'autofiction et c'est, il se trouve qu'elle interroge son propre rapport à sa mère, qui était Marguerite Bourry, et compagne de donc Monsieur Bohringer, papa de Romane, et en fait en lisant un livre qui l'a bouleversé, s'est rendu compte d'une certaine similitude avec l'histoire de Clémentine Autain, la femme politique députée de la France insoumise.
Mais c'est le film, le livre écrit par Clémentine.
Exactement. En fait, le Dites-lui que je l'aime est le titre du livre est de Clémentine Autain. Donc
elle a lu Clémentine et elle s'est dit mais.
Elle a dit ça. Elle s'est dit, mais en fait, on a perdu toutes les deux, à la même époque, nos mères, dans des circonstances floues, tragiques, des jeunes mamans autour de la trentaine, quand elles étaient toutes les deux adolescentes. Et en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle s'interroge la manière dont elle va pouvoir elle-même mettre en scène ce livre. Et il y a toute une recherche. On participe dans le film à cette recherche esthétique. On participe à cette interrogation sur qui étaient ces femmes et ces mères. Donc, en fait, le film est une découverte qui a permis à Romane Bohringer, parce que du coup, j'ai travaillé en amont et j'ai écouté des émissions où Romane Bohringer parlait de son film. Vous voyez, je suis très sérieuse. Elle raconte qu'en fait... jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais réussi à aller creuser cette histoire. Jamais, jamais. En fait, elle avait fermé cette porte. Et en fait, c'est ce média, c'est le cinéma qui lui a permis d'aller au fond de l'histoire de sa propre mère.
Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un peu un film thérapie ?
C'est, oh oui, je pense que c'est un film thérapie parce que c'est un film qui chemine jusqu'à comprendre... essayer de comprendre ce qu'elles ont vécu toutes les deux dans leur plus profond d'elles comme enfants, comme un abandon, une meurtrissure. Enfin, c'est évidemment un film sur le rapport mère-fille. En fait, ça touche tout le monde parce qu'évidemment, ça parle des mères, ça parle de rapports de filiation. Et ça rappelle aussi comment, en fait, en grandissant, en devenant soi-même parent ou même pas parent, on commence à avoir une autre vision de nos propres parents, des failles et de ce qu'ils ont pu être.
Oui.
Et c'est fait avec vraiment... c'est assez très original et c'est totalement on est un peu chahuté, on sait plus à qui appartient le récit, en fait, si c'est un récit qui appartient à Clémentine Autain, à Romane Bohringer. Finalement, elles finissent par devenir presque une seule entité. Et c'est totalement bouleversant. Et moi, le film, je l'ai vu, puisque tu as dit que tu avais vu ton film à Autun, moi, je l'ai vu à Rennes. Voilà, c'est important de le dire. C'était un jour pluvieux.
À l'Arvor.
Et je sais pas, cinéma génial.
Coucou aux copains de l'Arvor, voilà. On les adore.
Du coup, voilà, c'était pour moi vraiment un film étrange, atypique et qui touche tout le monde. Et voilà, donc je vous le conseille vivement. Vraiment, allez voir ce film. Il a une presse excellente et réellement, il est totalement bouleversant, sans tomber dans un pathos. Mais en plus, il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation, de la faille de l'enfant qu'on était.
Film nous a été réclamé, moi, quand je vais faire mes courses.
Ça m'étonne pas.
Arrêtez d'harceler Chloé quand elle fait ses courses.
Bon.
Allez, j'enchaîne.
Vous pouvez continuer. Ouais.
Avec la deuxième semaine de ce programme, du 28 janvier au 3 février, nous avons un drame japonais qui s'appelle Le Maître du Kabuki de Sang-il Lee, une enfance allemande de Fatih Akin, qui est un drame, et ensuite Le Pays d'Arto de Tamara Stepanian, un drame franco-arménien. Et encore une fois, voilà les deux événements d'écologie quotidien, donc des poussières d'étoiles et des récits des eaux et des rives qui a là. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un film du coup? Parce que j'ai vu que c'était plutôt. Il y a marqué écoute documentaire et cartographie.
Je sais pas. Eh ben, venez, vous verrez.
Voilà.
La réponse, ouais, c'est le jour J.
Bien vu. Tu t'en es bien sorti. Bon, alors dans les trois films de la semaine, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez envie de parler?
Ah, moi.
Allez.
Ou tu veux y aller, Chloé ?
Ah non, parce que moi, je n'en ai pas vu, en fait.
Ah oui, bah,
voilà, tout simplement.
Non, on a pas vu.
Vas-y, à toi. Non, moi, j'ai eu un gros, gros coup de cœur sur Une enfance allemande de Fatih Akin.
Okay.
C'est un réalisateur que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être déjà vu les films. Il est allemand et turc. Mm-hmm. Il a fait notamment In the Fade, mais aussi Soul Kitchen.
Ouais, c'était une super comédie, c'était très chouette.
C'est ça, et là il change complètement de registre, c'est-à-dire qu'il a adapté un livre d'un de ses amis qui raconte dans son livre, mais il y a souvent des histoires de livres et du cinéma, c'est vraiment deux choses très liées. Enfin, et donc c'est basé sur l'expérience de cette personne qui a vécu donc, son enfance sur une petite île dont j'ignorais l'existence, voilà. C'est une île, j'ai regardé sur la
carte. Il y a beaucoup d'îles dont on ignore l'existence.
Bah, oui.
Même les gens qui connaissent toutes les îles ne connaissent pas toutes les îles, hein. Je te rassure.
Peut-être qu'il y a des spécialistes des îles.
Ah bah oui, oui.
Et donc celle-là, elle s'appelle les îles d'Arum. Enfin, je crois que ce n'est qu'une. Donc c'est l'île d'Amrum.
D'Amrum.
Alors j'ai regardé, donc c'est au large, c'est au nord-ouest de l'Allemagne. C'est pas très loin de la frontière avec le Danemark. Et en fait, c'est hyper important de planter ce décor-là parce que c'est du coup hors du temps. C'est-à-dire que les habitants de cette île sont connectés au reste du monde, mais à la fois sont très isolés. Enfin, du coup, je trouve que ça, c'est un aspect du film qui est hyper intéressant, c'est que c'est un film insulaire. Et en plus de s'appeler Une enfance allemande, il s'appelle Île d'Amrum 1945. Et là, ça nous met sur une piste, directement. À votre avis, de quoi va parler le film ?
Je sais pas, Super Bowl.
Il y a eu un petit truc. donc, ça va parler de la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus spécifiquement de la période pile au moment de la mort du Führer Hitler. Et donc,
elle a dit le nom.
J'ai dit le nom.
Il y a tellement de tension dans la salle.
Elle a quand même mis l'accent avec le Führer. J'étais assez épatée.
T'as vu ? Ouais. J'ai fait un petit effort. J'ai appris l'allemand ces derniers jours. Non, enfin bon, donc ça va parler de la fin du nazisme et de cette enfance parmi d'autres, hein, mais de celle spécifiquement d'un fils de nazi. Donc c'est une famille nombreuse et ce personnage de 12 ans. Va être au centre du film. Et donc, on va découvrir que son père faisait la guerre en tant que dignitaire nazi, que sa mère était hyper nazie aussi, et que c'est le drame au moment évidemment, de la chute du Reich. Et mes bonnes raisons d'aller voir ce film, c'est que déjà, cette période, moi, je trouve que c'est génial de faire de la micro-histoire, en fait, parce qu'on connaît l'histoire avec voilà, les événements internationaux, mais là, on rentre dans le quotidien d'une famille qui vit à ses yeux ce qui est un drame, en fait. C'est la chute du régime. Et donc ça, c'est en tant que tel, découvrir cette enfance-là, je trouve que c'est incroyable parce qu'on voit aussi que c'est un monde qui s'effondre, que c'est des croyances qui tombent, que le regard sur les uns les unes les autres change, qu'en fait ceux qui étaient montrés comme des parias vont devenir des héros et inversement. Enfin. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment une première raison. La deuxième raison, c'est Jasper Bilherbeck, à qui je souhaite une belle et longue carrière en fait. C'est le comédien qui a le personnage principal, donc qui a 12 ans, et qui est dans quasiment tous les plans du film, qui a été extrêmement bien dirigé. Enfin, il est d'une justesse, c'est vraiment épatant. Pour lui, c'est une période charnière, parce qu'à la fois, il doit satisfaire sa mère, qui du coup va très mal, notamment après un accouchement, et il veut absolument lui faire plaisir, et vous verrez qu'il y a une quête pour du beurre et du miel qui est particulièrement haletante. Mais c'est surtout, voilà, il voit les regards de ses copains qui évoluent, parce que lui était dans les jeunesses hitlériennes, et que, en fait... voilà, on enlève les drapeaux. Enfin, c'est des choses très symboliques et fortes, quoi. Et donc, les dernières raisons, c'est que c'est des paysages absolument somptueux, on est vraiment dans un décor, mais un peu comme L'Englouti, hein. Enfin, clairement, il y a ce voyage qu'on fait où on est absorbé par cette histoire. Et moi, j'ai très envie de le montrer aussi à des publics scolaires.
Ah oui,
parce
oui.
que du coup, c'est à hauteur d'enfant. Comme je disais, c'est de la micro-histoire dans une histoire internationale qu'on connaît, quoi. Et c'est super, c'est super. Et il y a Diane Kruger.
Oui, en effet, je vois ça.
Qui a un petit rôle, mais pas des moindres. Et qui, on le rappelle, a
elle joue Hitler.
Travaillé.
Voilà, je vous spoil.
Quelle prestation incroyable de comédienne.
La transformation.
Transformation à l'américaine. Et il le fait tellement bien.
Alors, non, parce que en fait, l'intégralité du film se déroule mais sur oui. l'île. Et que je sache, Hitler n'est pas mort sur l'île d'Amrun. Donc en fait, on ne le voit pas.
Si il était mort sur l'île d'Amrun, tu la connaîtrais.
Ah bah voilà. Voilà. Bah voilà. 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 Ouais. C'est comme l'île d'Elbe, non, truc de Napoléon. De
Napoléon,
ouais.
Tu
vois, c'est vrai,
marrant, mais
on
tu fais
la
une transition parfaite.
Ah, ah parfait.
Mais elle est tellement forte, elle est faite pour la radio. Je t'ai appelé Léa Salamé.
est-ce que Léa Salamé est faite pour la radio?
Voilà, non, ce sera une transition qui m'amènera au film de la semaine d'après. Mais t'avais fini?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui.
Eh ben, je pense... Je dis le programme et tu peux parler tu peux refaire cette transition, raccrocher les wagons. Donc la troisième semaine du programme qui se déroule du 4 au 10 février, on aura un thriller allemand qui s'appelle Les échos du passé de Masha Chilinsky, Mother, Father, Sister, Brother de Jim Jarmusch, une comédie dramatique franco-américaine plutôt. Et ensuite un film de Abdelmalik qui s'appelle Fourci, né libre. Un film sur l'esclavage.
Petite coquille sur le programme également.
Oui, petite coquille. Et un film d'animation pour les tout-petits qui s'appelle Les tout-petites créatures 2 de Lucie Izard. Voilà.
Voilà. Alors, moi je vais présenter donc Fourci, né libre de Abdelmalik, connu comme étant slammer, réalisateur, metteur en scène, un homme de talent.
Ouais.
Absolument formidable. J'ai encore écouté plein d'émissions où il parlait. Moi je suis pour qu'il se présente à la présidentielle. Alors, donc pour rebondir sur ce que Chloé disait tout à l'heure, je fais un petit rappel historique. En février 1794, il y a eu une abolition de l'esclavage, figurez-vous. Pendant la Révolution. Ils se sont dit, oui, c'était suite à des révoltes de Saint-Domingue. Bon, bref, on fait un petit rappel historique. Et c'est notre grand empereur Napoléon qui a rétabli l'esclavage en 1802. Donc, ça faisait écho donc, à ce que tu disais sur l'île d'Elbe. Ça me permet de tout de suite vous présenter ce film, qui est encore une adaptation littéraire de l'histoire vraie de Fourci Madeleine. Qui avait été donc l'objet d'un roman qui s'appelle L'affaire de l'esclave Fourci de Mohamed Aissaoui. Fourci, c'était un homme qui était donc esclave, qui pendant 28 ans a essayé d'obtenir sa libération en fait. Et donc il était de 1817 jusqu'à juste 2 ans avant l'abolition totale de l'esclavage, qui, rappelons-le, est en avril 1848. Voilà, enfin, vous êtes contents, vous avez eu un cours d'histoire sur l'esclavage.
Très content.
Alors voilà, donc
c'est le cours.
Abdelmalik, il a adapté ce roman à un moment où lui, il a commencé à penser que c'était important pour lui de raconter cette histoire. Ça se passe sur l'île de Bourbon, qui est en fait
la vanille.
Elle a comme la vanille, et qui est en fait le nom actuel de la Réunion. Fourci, c'est un film déjà qui est un film sur l'esclavagisme, mais sur l'abolition de l'esclavage. Donc Abdelmalik dit que c'était pour lui primordial d'adapter aujourd'hui ce roman parce que en fait c'est un sujet que le cinéma français a peu montré.
Et sauf l'an dernier.
Exactement. Le film Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou qui est sorti et que vous avez pu voir au Pestel notamment. Donc actuellement en fait il y a ces deux films qui ont spécifiquement parler de ce sujet très sensible pour l'histoire de la France. Donc pour ça, c'est déjà une très bonne raison d'aller voir le film. C'est très important en fait que la fiction s'approprie l'histoire et se la réapproprie et pour raconter ce sujet absolument crucial en fait de l'histoire de France, que
mais
le colonialisme
là, oui.
et l'esclavagisme. Ouais.
Là, je rebondis sur ce que je disais aussi tout à l'heure. Là, on est sur de la micro-histoire aussi,
ouais.
parce que là, on se concentre sur une personne, mais via son exemple, on raconte l'histoire de tous les ouais. autres, enfin de plein d'autres.
Tout à fait. Et donc, le film ne raconte pas réellement l'esclavagisme. Il raconte surtout un parcours d'un homme qui veut se libérer. Et en fait, on est sur une lutte qui passe par le droit. Donc tout le film raconte que c'est pas par la violence que Fursy ou quoi que ce soit, en fait, il a obtenu sa libération. Il l'a obtenu en passant par la voie légale. Il a dit, en fait, j'ai des droits, donc je vais attaquer mes maîtres en justice. Et il fait 28 ans de procès, quoi. Enfin, ça a été une première... donc c'est vraiment un homme qui a compris... En faisant la fameuse jurisprudence, en fait, que ça pouvait, il pouvait obtenir sa liberté, parce que sa mère elle-même étant libre, en fait. Donc pour ça, on a une flopée de comédiens magistraux qui interprètent tous ces grands personnages historiques qui ont existé. Donc Fursy est joué par Makita Samba, qu'on a déjà vu dans Kika mois-ci. Très bon comédien. Vraiment, je pense qu'on est ravis de le revoir. Voilà, prestation pas simple parce qu'il a très peu de dialogue et c'est vraiment tout passe par toutes ces sensations et émotions qu'il traverse. Il y a son avocat abolitionniste qui est joué par Romain Duris.
Oh,
tout à fait. Il y a son maître qui est joué par Vincent Macken. Et on a une flopée de comédiens qui viennent du théâtre. Et en fait, c'est assez important pour Abdelmalik d'avoir choisi ces comédiens parce qu'il dit, en fait, pour lui, le droit et toutes ces scènes de procès, c'est une scène de théâtre. Donc, il est allé chercher dans des comédiens de théâtre qui sont Michel Lescaut, André Marcon, des très bons comédiens, des hommes de théâtre. Donc, ça aussi, c'est une bonne raison d'aller voir ce film parce que c'est un film qui est très bien interprété. Et donc, en fait, une des dernières raisons, c'est plutôt de l'ordre du symbolique. En fait, Abdelmalik dit qu'aujourd'hui, on doit toujours réussir à faire vivre et défendre ses droits. Et que pour lui, en fait, il n'y a que par la réforme des institutions et par la voie plutôt légale qu'on obtiendra réparation, justice, libération. Il en parle très, très bien. Je vous conseille de l'écouter. Je suis assez fan de lui. Et... tout ça, derrière tout ça, je voudrais quand même préciser qu'il y a une BO qui est évidemment extrêmement soignée. Hein, on pouvait compter sur lui. Mm-hmm. Il y a notamment Daniel Warraud, qui est un grand poète de La Réunion, qui est mis en lumière. Et lui-même a signé donc Abdelmalik la BO.
Moi, j'ai écouté ses disques, hein, Abdelmalik.
Ouais.
Et c'est vraiment bien. J'aime beaucoup sa musique.
C'est un super hip-hop, un peu old school, mais qui...
Islam, il est
vraiment très bien. Donc voilà... Pour tout ça, allez voir ce film qui est aussi encore une fois à montrer à des scolaires parce que c'est très important. Mmh. Sur ce, je ferme cette petite parenthèse. Voilà.
Et alors toi, ton dernier film, Chloé, c'est sur la semaine prochaine, la semaine d'après ?
Non, c'est un deuxième film allemand. En fait, assez rare qu'on ait deux films allemands d'affilée. Mmh. Et moi, j'en vois moins que... Enfin bon, c'est pas les films que je vois le plus, on va dire. Et là, c'est encore un énorme coup de cœur, Les Échos du passé. Donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, c'est drôle parce qu'il y a quelques points communs avec Une enfance allemande, parce qu'on est aussi loin des villes. Il y a aussi une unité de lieu. C'est-à-dire que tout le film se passe dans la même ferme, mais sur quatre générations. C'est-à-dire qu'on est sur quatre vies, quatre époques et quatre familles et surtout des trajectoires de femmes. Et donc c'est un film qui a eu le prix du jury à Cannes et c'est le premier film de la réalisatrice Masha Chilinsky qui sort en France. Et quand tu vois ce film, la maîtrise. Tu peux pas deviner que c'est une femme qui a fait que deux films, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant, c'est très très maîtrisé. C'est effectivement un film à narration lente. Il y a un avertissement parce qu'il y a des scènes dures et il est un peu long, il dépasse les deux heures, mais ça vaut vraiment le coup. Moi, je trouve que c'est une expérience de cinéma. En fait, c'est des films, tu les vois et ils t'ont un peu modifié, ils te laissent une sensation, ils te laissent une atmosphère, en fait. Ce qui reste dans ta tête, c'est fort. Donc, il faut se laisser embarquer. C'est austère mais marquant. C'est le lieu qui a inspiré l'écriture du film. Alors ça, c'est quand même assez fou.
Ah, oui.
Je trouve que du coup, ça a dit beaucoup du film en tant que tel. C'est que le lieu est un personnage et que finalement, les habitants qui s'y succèdent ne sont finalement que des âmes qui sont connectées les unes avec les autres par ce lieu. Et voilà, donc l'aspect transgénérationnel est très intéressant. C'est un film sur plein de trucs, sur le deuil, sur les souvenirs, sur les mystères, sur aussi l'histoire de l'Allemagne, on y revient. Et il a été choisi pour représenter l'Allemagne aux Oscars. Donc c'est pour vous dire que c'est...
Bon, c'est pas rien, quoi.
Ouais, c'est pas rien. Et puis surtout, ça veut dire que dans le pays en tant que tel, on y a vu un fort intérêt, quoi. Enfin,
ouais.
Que, voilà. Donc, laissez-vous
embarquer.
Une très
belle affiche aussi.
Ah, ouais, l'affiche est incroyable, super, la musique est très forte. La manière dont est filmé ce film, moi, ça m'a bouleversé. Rien que la bande-annonce, je l'ai revue ce matin. Oh, ces images, c'est un film un peu à costume et à la fois contemporain. Il y a ces liens entre les générations. Il y a des, c'est des destinées compliquées, mais à la fois... Enfin bon,
parce que du coup, ça va de camp à camp à peu près l'époque. Enfin, ça traverse combien d'années
Tout le 20e siècle.
Ah ouais, ok, voilà.
Ouais. Et moi, je l'avais vu en novembre au festival d'Aubenas. Et c'est un des films que j'ai plus eu envie de défendre quand je suis rentrée à Die. C'est du très grand cinéma réessai qui vaut le détour. Et donc, ne vous laissez pas impressionner par sa durée. Laissez-vous embarquer. Faites ce voyage dans le temps. Et je pense que vous verrez la qualité de la mise en scène et des choix qui ont été faits. Et c'est trop bien.
Très bien.
En tout cas, moi, de retour de Cannes, j'avais... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas allée à Cannes, mais le retour de Cannes, c'était qu'il fallait impérativement aller voir ce film. Tout le monde était super enjoué. Voilà.
Ok.
C'est pas joyeux, hein.
Ah,
mais
oui,
là,
au
moins... Non, oui. C'est vrai que, voilà.
Super.
Tout le monde était jovial, souriant, solaire. C'est un film extrêmement joyeux. Bref.
Non, il y a vraiment... En fait, moi, il y a même eu des choses que j'ai compris à retardement. Mmh. En mode... Mais attends, pourquoi ils ont fait ça délibérément? Ah, mais c'est parce qu'il y avait la guerre. Enfin bon, je veux pas vous spoiler. Je veux pas vous en dire trop, mais...
Je croyais que c'était le Super Bowl aussi. Comment va la guerre en Allemagne?
Et puis, ouais, bref, c'est super. On en reparlera si vous le voyez. D'ailleurs, si vous nous écoutez, là, vous pouvez m'arrêter pendant que je fais mes courses. Parce que ça me ferait plaisir de savoir que...
Que vous avez vu ce film.
Que vous avez vu ce film et que vous avez écouté notre émission.
Oui, bien sûr, aussi.
Aussi, ouais.
Moi, ne m'arrêtez pas pendant mes courses.
Moi, vous avez le temps.
Moi, vous ne m'identifiez même pas, donc je suis pas incognito. Très bien, mes courses.
Et donc, la dernière semaine, qui se déroule du 11 au 17 février, on a The Mastermind de Kelly Reichardt, qui est un polar américain sorti en 2026, avec Josh O'Connor, qui est partout en ce moment, j'ai l'impression, et Alana Haim aussi, que je vois partout aussi, dans le dernier PTA, dans les deux derniers PTA d'ailleurs.
Pitié.
D'ailleurs, je l'ai vu depuis, c'était sympa.
Pour Paul Thomas Anderson. Attends, on va pas parler en initial.
On est écouté par des connaisseurs. C'est à la fin de l'émission, tout le monde a décroché déjà. Enfin.
Oui, c'est ça.
La suite de la programmation de Soulèvement qui était en avant-première plus tôt dans la programmation, dans le mois, de Thomas Lacoste pour Écologie au quotidien. Et ensuite, on a la reprise du Chant des forêts de Vincent Munier, qui était déjà passé en décembre ou en janvier, je ne sais plus trop quand.
Mais je crois qu'il a fait Salle pleine.
Il
je
a
crois
fait
que c'était impératif que les gens le voient, ceux qui ne l'ont pas vu. Quoi.
Le film qui a le mieux marché en 2025.
Exactement. Et du coup, vous l'avez repris parce que plein de gens l'ont sûrement manqué et puis peut-être des gens vont aller le revoir. Je parle de moi.
Surtout un film des vacances, tu vois. Et on l'avait pris à Noël et beaucoup de personnes sont venues le voir en famille. Mm. Et là, on le reprend en vacances de février pour que ce soit possible de faire la même chose, sachant que c'est le seul film qui a dépassé les 1000 entrées au Pestel. 1000 entrées, c'est le 36e de nos entrées, du coup.
Oui.
C'est ouf.
Ouais. Quand on est fort en fraction.
Quand on a bien écouté à l'école.
Voilà.
Donc moi, je suis trop content de le revoir. Je vais dire à tout le monde d'y aller, et notamment à vous, parce que vous nous écoutez. Je découvre qu'on repasse Shrek, premier Shrek de 2001.
Mais dont on se lasse pas.
Dont on se lasse pas. Et d'ailleurs, il me semble que le 4 arrive à la fin de l'année, ou le 5, je sais plus lequel c'est, mais il y en a un qui est prévu là, je crois.
Tout à fait.
Et donc voilà, si vous avez pas encore vu Shrek et que vous voulez le voir en grand écran, allez-y.
Non, mais revenez le voir, tout simplement.
Ou revenez le voir avec vos enfants.
C'est pareil, c'est film de vacances, film culte, film génial, film à revoir, revoir.
Une BO extraordinaire. Tout
un classique, on peut un pur classique.
Aujourd'hui, un classique.
Depuis que je sais qu'il est dans la programmation, j'écoute la BO, reste en tête, c'est n'importe quoi.
David. Alors, je vais vous présenter un film beaucoup moins vert, The Mastermind de Kelly Reichardt.
On va faire juste une gradation des films qui sont plus ou moins verts. Voilà.
Alors, il est plutôt milieu, là, on peut dire qu'on est sur un camailleux plutôt jaune beige.
Il y a Furcy, hein. Furcy, les verts, ouais, les échos du
papier. Pas celui-là, parce qu'on est dans, sur les années 70, donc on est plutôt entre un jaune beige marron. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la couleur un peu des années 70. Bref.
Ah oui, non, mais je vois très bien.
Tu vois très bien, ouais. Bon, alors Masterman, c'est, je ne sais le, pas combien tième film de Kelly Richard, mais qu'on ne pourrait ne plus présenter, qui est un peu aujourd'hui la grande réalisatrice du cinéma indépendant américain, qui a fait Wendy et Lucy, qui avait, ouais, bref, qui a fait La Dernière Piste, First Co, Showing Up.
First Co.
Bah voilà, oh ouais, voilà. Donc, qui a un style, en fait, elle revisite un peu Kelly Richard, les grands. Les grands styles du cinéma américain qui sont par exemple le western, et elle le remet à la mayonnaise et à la sauce Kelly Richard, où elle féminise et elle revisite un peu ces grands succès et ces grands genres cinématographiques. Et bien là, elle fait la même chose avec un nouveau genre qui est un peu le film de casse ou le film de braquage. Et donc, elle situe ça dans les années 70 avec donc le fameux Josh O'Connor qui est partout, donc qui était dans Rebuilding il y a deux, trois semaines.
Dans Challengers, dans Knives Out 3.
C'est ça, qui est un comédien britannique qui a fait toutes les séries possibles.
Qui est canon.
Et qui est totalement canon, mais justement, c'est, et qui était d'ailleurs vu, ou je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, pour être le nouveau James Bond.
Oh,
ouais, à un moment, ils en parlaient. Ouais.
Oh, j'y crois pas.
Donc, ce type a une certaine prestance, une carrure, et en fait, c'est pas négligeable qu'elle ait choisi, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il va jouer. Il va jouer à contre-pied de ça, il va faire un type qui, en fait, a un peu tout dans la vie pour finalement être heureux, réussir. Deux enfants, un papa juge, on comprend qu'il a fait des études d'art, mais c'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu, qui se croit peut-être un peu trop intelligent, d'où le titre de Mastermind, et qui, en fait, hein, sacré loser. Donc, en fait, le vol, il se passe dans les 15 premières minutes du film. Donc, ce n'est pas le sujet central du film. Ce qu'elle interroge, elle, c'est plutôt les raisons qui poussent ce type à avoir été, à ce moment-là, cru que ça pouvait marcher, que gagner du pognon en volant des œuvres d'art, c'était vraiment une super idée. Et en fait, ça, elle le fait avec une intelligence et un brio assez hors du commun. Enfin, c'est une très grande réalisatrice. Il y a une espèce de pudeur.
J'ai pas compris l'histoire.
En fait, c'est un type qui a une petite famille dans les années 70, vraiment avec un derrière le sur
rêve
fond
américain.
De rêve. Ouais. Bah, non, pas du tout. C'est plutôt sur fond de lutte contre la guerre du Vietnam et tout ça. Mais c'est vraiment derrière. Alors, lui, il est juste dans une famille avec deux gosses. Tu comprends qu'il a pas vraiment trouvé sa voie, qu'il bosse pas. Et donc, il essaye de faire un grand coup d'éclat en volant des œuvres d'art, en faisant du recel d'œuvres d'art. Vraiment idée un peu merdique en soi, mais c'est un peu le fond de beaucoup des films des années 70 où au contraire on montrait la masculinité et l'homme qui faisait le braquage et tout, un peu comme quelqu'un qui était un peu un héros. Et bien là il va en prendre une grosse claque, l'homme viriliste, parce que en fait c'est plutôt une petite descente vers un peu la loose, quoi. Et donc c'est ça, ça raconte ça, le film. C'est voilà, la photo est superbe, la musique jazzy est incroyable, et alors enfin vraiment c'est filmé avec une très très grande maîtrise et intelligence. Moi je vous conseille ce film qui paye pas de mine. On comprend pas vraiment pourquoi elle a voulu reparler de ça, et en fait je pense qu'il est encore super intéressant de réinterroger les fondements du cinéma américain et des bases de ce que c'est, parce que on interroge la figure du père, et que en fait on se rend compte un peu dans ce film que finalement les pères fondateurs de la République, les Américains, ils en ont pas besoin. Hein. Il va falloir qu'ils se débarrassent quand même de ça, parce qu'ils ont un petit. Bon bref, je vais peut-être conclure là-dessus.
Voilà.
Bah c'est tout. On n'a pas besoin des pères fondateurs. Voilà, c'est une belle conclusion.
Bah ouais, non, c'est vrai. Hein. Tu parlais de l'esclavagisme tout à l'heure. Ouais,
en tout cas,
ils sont bien réputés pour avoir pratiqué, quoi.
Je sais pas vous, mais moi j'adore ce programme.
Ouais.
Enfin,
je le trouve bien aussi, oui.
Très, 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 très enthousiasmant.
Il est joli, parce qu'il y a du vert et tout.
Ouais.
Bon, c'est vrai qu'il y a des très bons films ce mois-ci. On vous les conseille. On n'a pas parlé du Bellatar, mais c'est un très grand film.
Donc, les harmonies
de Wackmeister, qui sont impossibles à prononcer. Mais voilà, bref, en tout cas, il y a de très, très bons films.
Mais même le film japonais, Jean-Pierre est très enthousiaste, là, les maîtres de Kabuki.
Ah oui, et
exact.
Le film chinois.
Et Le Temps des Moissons, c'est pareil, je crois qu'il n'a pas pu être diffusé en Chine, où il n'y a pas une histoire comme ça, qui est un peu inédit. Et Le Pays d'Artaud, on me l'a demandé, donc je pense qu'il va y avoir du monde.
Avec Camille Cotin.
Tout à fait. On n'a même pas évoqué que le Pestel Café organise un concert là, jeudi 22, qui s'appelle L'Aile du Zef. Et puis, on n'a pas parlé non plus du Ciné-Goûter qui aura lieu le 4 février à 15h45 à l'occasion de la projection des Toutes Petites Créatures 2. Donc, encore un rendez-vous à mettre dans vos petits agendas. Et vous pouvez aussi ajouter que le 12, bon, deux jours avant la Saint-Valentin, le Pestel Café organise un radio show.
Show.
bref, une soirée, The DJ Radio Show. Donc le 12 à 20h à l'occasion de la Saint-Valentin.
La Saint-Valentin du 12.
Le Saint-Valentin en avance.
Ok.
Ouais, bah gros programme, bien chargé, trop hâte.
Ouais, il y a plein de trucs différents et tout.
Ouais. Et Shrek.
Toi, tu vas y retourner.
Ça
parle énormément. Non, moi sur grand écran, c'est sûr que je vais aller le voir. Mais je l'avais déjà vu sur grand écran à l'époque, mais avec mes enfants.
Ouais.
Bon, on est content, hein. On est content. Ouais. Il pleut, donc elle est au cinéma. Moi, c'est tout ce que j'ai. Enfin, là aujourd'hui. Mais peut-être qu'il va continuer à pleuvoir. On sait pas.
On est dans les 6 mois de l'année où il pleut et voilà. Il fait pas beau. Donc, voilà. On va se mettre au chaud au cinéma. En plus, il fait très chaud dans la salle.
Ouais. Et oui, on a eu une petite panne, mais maintenant ça va. Et c'est vrai que les vacances de février, là, entre Le Chant des Forêts, Shrek, The Mastermind et Soulèvement, qui, on le sait, va intéresser aussi beaucoup.
Ah oui, il a été demandé. Public. Moi, ils m'ont demandé, toi, même.
Ah bah tu vois, même toi.
Rien, moi.
Oh.
J'ai dit qu'on voulait, je ne voulais pas, donc c'est bon.
Mais si tu veux, je te forme à la caisse, tu verras.
On verra.
Bon, merci de nous avoir écoutés.
Ouais. On vous embrasse.
Oui.
Et encore bonne année 2026.
Oui, bonne année. Oui. Ouais.
Et venez au cinéma et parlez-nous de vos films coup de cœur et dites-nous si vous nous écoutez, ça nous fera plaisir.
Voilà. Bisous, Erdiwa.
Bisous, Erdiwa.
Bisous.